Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les jeudis, le roman noir est à l'honneur de ce magazine de l'actualité culturelle. Et aujourd'hui, nous recevons Antoine Chénas, qui publie dans la série noire de Gallimard, Empire des chimères. Le réveil culturel, c'est tous les jours de 6h à 6h30 à la radio, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible à la page de l'émission sur franceculture.fr. Coordination Corinne Amard, réalisation Christine Robert, avec aujourd'hui à la technique, Julien Douminc.
Le réveil culturel. Jeudi, Polar.
Bonjour Antoine Chénas.
Bonjour.
Depuis une dizaine d'années, vous publiez dans la collection Série Noire chez Gallimard. Vous êtes aussi traducteur de romans policiers anglo-saxons. Vous avez obtenu, avec un de vos précédents livres purs, le Grand Prix de la littérature policière. Vous vivez dans le sud de la France, c'est-à-dire du côté de Nice, dans l'arrière-pays niçois. Merci d'ailleurs d'avoir fait le voyage jusqu'à la Maison Ronde pour nous parler de votre sixième et dernier roman qui vient de paraître, Empire des chimères. Alors l'action du roman se déroule en 1983 et 1984. 1984, je suppose que ce n'est pas un hasard. Et parmi les nombreux personnages de votre volumineux roman de 500 pages, il y a un politique qui mène des négociations avec une multinationale américaine qui a bâti tout son succès sur un jeu de rôle. Le jeu de rôle, justement, c'est Empire des chimères, et dont elle a fait le thème d'un parc d'attractions qu'elle souhaite désormais implanter en France. C'est un roman mondial et local, puisqu'il y a aussi une intrigue policière. Dans une petite ville rurale et paisible, une fillette de 10 ans disparaît au cours d'une partie de cache-cache. Alors, la police, mais aussi le garde champêtre, mènent leur enquête chacun de leur côté. Donc c'est un polar avec un côté slipstream, ça se dit comme ça ?
Oui, exactement, slipstream.
Voilà, ça parle d'une époque où le four à micro-ondes fait son apparition révolutionnaire. Mais on est déjà quand même dans ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle, avec le jeu de rôle, avec l'intrigue que vous avez imaginée. Comme tous les auteurs de polar, c'est l'intrigue policière qui est au centre de votre livre et qui développe d'autres histoires, d'autres perspectives, d'autres enjeux qui étaient à l'origine de Empire des chimères.
Oui, mais l'intrigue policière, elle est, c'est un prétexte. C'est un prétexte à explorer des univers plus larges et à un petit peu voir comment on peut articuler les codes du polar avec d'autres codes qui chacun ont leur spécificité, et de tester un petit peu les limites du lectorat, tout en sachant qu'on doit quand même rester dans le cadre d'une série noire, dans le cadre d'un roman noir.
Avant de parler des personnages, avant de parler des intrigue. Parlons de cette époque que vous avez choisie, Antoine Chénas, c'est-à-dire la France de François Mitterrand.
Je pense que c'était vraiment une époque charnière. C'était un petit peu la fin du programme commun. C'était le moment où la gauche a commencé à s'apercevoir qu'elle pourrait probablement pas appliquer ses promesses électorales. Et elle a été rappelée durement à la réalité. Et c'est aussi le moment, alors là, dans notre monde réel, une grande multinationale du divertissement, Walt Disney, pour ne pas la nommer, a décidé de s'implanter en France.
Et a réussi à s'implanter en France.
Et a réussi à terme à s'implanter en France, oui.
Vous étiez contre à l'époque, Antoine Chénas? Est-ce que vous écrivez aussi avec les sentiments du jeune que vous étiez à l'époque?
Bah écoutez, j'étais ni pour ni contre en fait, parce que j'étais vraiment très détaché à cette époque-là de ce genre de préoccupations. Pour tout vous dire, je vivais pas dans un milieu rural, j'ai pas grandi en milieu rural, je suis un enfant des cités. Aujourd'hui on appelle ça des quartiers sensibles. Je suis allé m'installer à la campagne après, quand j'étais adulte, mais je me suis basé beaucoup sur les souvenirs des habitants qui peuplent mon village même actuellement. Mais on était quand même assez loin de ces préoccupations, qu'on soit en cité ou qu'on soit à la campagne, on était assez loin de ces préoccupations. Et à titre personnel, je pense que c'est ni bien ni mal, je pense juste que c'est un mouvement de l'histoire, c'est-à-dire c'est une privatisation en quelque sorte on a commencé à privatiser l'espace public, et c'est l'avènement de la société du divertissement et de la société des loisirs.
Tout est fiction dans votre roman Empire des chimères.
Oui, tout est fiction, c'est signalé dès le début, il y a un petit avertissement au début qui est un petit peu ludique.
Qu'on n'est pas obligé de prendre au sérieux d'ailleurs.
Qu'on n'est pas obligé de prendre au sérieux, exactement. Si on le lit avec attention, on verra que qu'il y a déjà une indication sur la nature du roman. Mais effectivement, tout est fiction, et en même temps, tout est réel. Tout le jeu, ça va consister à essayer de décrypter tous les aspects de la fiction qu'on peut appliquer au réel. Alors, le lecteur peut choisir d'y jouer ou pas. En tout cas, j'ai quand même travailler l'intrigue et les personnages de manière à ce que ça forme quand même une vraie histoire.
On peut parler de fausses pistes.
On peut parler de fausses pistes.
Vous jouez avec le lecteur, c'est-à-dire oui. Empire des Chimères, on se pose vraiment la question si ce jeu de rôle a réellement existé. Oui. Le crime qui sert de détonateur à toute une enquête, on se demande si c'est pas l'assassinat du petit Grigori qui est maquillé. Eh ben non, pas du tout.
Non, il y a des éléments, mais c'est pas tout à fait ça. Et la France de 1983 que je décris, 1983-1984, c'est pas tout à fait celle qu'on a connue. Alors bon, dans le livre, vous verrez, il y a une explication qui est fournie. Un petit peu, ça sera un petit peu à chaque lecteur d'y trouver sa propre explication. On n'est pas tout à fait dans la France de 1983.
C'est quoi le décalage? C'est toute la fiction que vous imposez à ce roman qui aurait pu être le roman d'une époque?
Ouais, enfin le décalage, c'est des torsions que je vais appliquer au réel, que je vais appliquer de manière croissante jusqu'à la fin du roman pour à terme sortir complètement sortir en grande partie du réel. Mais ces torsions, elles interviennent d'abord de manière infraliminaire, je dirais, et puis elle s'accentue petit à petit au fil du roman, et à ce moment-là, le lecteur probablement va découvrir que je l'emmène à un endroit qu'il n'avait pas imaginé au départ.
Les enfants sont très présents dans votre roman.
Les enfants, parce qu'il est le
parce qu'ils peuvent passer facilement d'un monde rêvé, d'un monde imaginaire à un monde réel, et qu'ils peuvent faire la confusion de ces deux mondes.
Exactement, oui, ça me permet d'accentuer cette confusion, et puis ça me permet aussi d'accentuer le côté conte. Il y a un côté à la fois moral dans le roman, et un côté conte de fées, un petit peu tordu, un petit peu perverti, mais qui est effectivement qui est assez présent dans le roman, qui est présent à la fois par les enfants, qui est présent aussi par les animaux qui ont des facultés, on va dire, anthropomorphiques, sans en dire trop. Mais tout ça va participer d'une ambiance un petit peu entre l'onérisme et le conte de fées, tout en restant suffisamment accroché au réel pour que le lecteur de polar, qui est quand même d'une manière générale assez attaché au réel, puisse y trouver quand même son compte.
Alors, parlons de ce jeu de rôle, parlons de Empire des Chimères. Comment vous l'avez imaginé?
Oh ben c'est très simple. Hein. Dans ma jeunesse, on était un petit groupe, ce qu'on pourrait appeler des proto-geeks, c'est-à-dire les geeks n'existaient pas à l'époque, mais je pense qu'on les préfigurait plus ou moins. On était un petit groupe de fans de jeux de rôle, de bandes dessinées un petit peu déviantes, de hard rock, de choses comme ça. Donc je me suis servi en fait de mes souvenirs d'adolescence à l'époque où je participais aux jeux de rôle, et là en l'occurrence le jeu de rôle qui est imaginé dans Empire des Chimères ressemble plus en fait à un fantasme de jeu de rôle qu'à un véritable jeu de rôle. C'est-à-dire que j'en ai choisi les éléments constitutifs, mais j'en ai pas choisi la trame à proprement parler telle qu'elle existe telle qu'elle a existé d'ailleurs dans Donjons et Dragons et puis dans les jeux de rôle qui ont suivi.
Cette écriture, cette narration en forme de labyrinthe vertigineux, on peut le dire à un certain moment. Les personnages, quand ils apparaissent, on va vivre avec eux, on va les perdre, on va les retrouver. Plein d'histoires vont finir par se rencontrer. Ces histoires-là, vous les aviez imaginées avant d'imaginer la structure du livre, ou c'est la structure du livre qui vous a inspiré au fur et à mesure que vous avanciez dans l'écriture? C'est ce qu'on peut appeler ça carrément des dérives, hein.
Oui, bah là on va rentrer un petit peu dans la petite dans la petite cuisine.
Mais jamais la forme là on a autant représenté le fond.
Oui, exactement, oui. Bah écoutez, j'avais un traitement d'une soixantaine de pages en fait qui était un traitement audiovisuel qui tournait un petit peu dans les boîtes de production et il se trouve qu'à la même époque Gallimard m'a proposé une avance donc en fait, je leur ai proposé cette histoire-là. Et ils l'ont accepté. Donc du coup, ça s'est transformé en roman et la narration, l'histoire, c'est un petit peu scindé en plusieurs niveaux en fait, qui vont s'imbriquer au fil du roman. Mais le plan de départ était très très solide et l'intrigue et les personnages étaient déjà bien dessinés.
Ah bah alors, donc, je serais très curieux de savoir comment vous avez vendu ça, ce livre à Gallimard, Antoine Chénas, qui va nous permettre d'avoir le résumé d'Empire des Chimères. Par son auteur.
Bah écoutez, je l'ai vendu tout simplement. Hein. C'était le, je crois que l'incipit, c'était quelque chose comme 1983. Une multinationale du divertissement veut s'installer dans une région désolée de la France. Parallèlement, une petite fille disparaît dans l'un des villages concernés. Voilà, c'était vraiment l'incipit. Après, il y avait un plan détaillé, il y avait des fiches personnages, etc., etc. Mais l'aspect fantastique était déjà très présent et bon, j'en ai discuté avec mon éditrice Stéphanie Delestré et elle avait déjà aussi des références au moment où elle m'en a parlé, c'était plutôt il y a quelques années, il y avait la série noire et puis il y avait une autre collection qui était un petit peu plus littéraire qui s'appelait La Noire simplement. Sa référence c'était plutôt ça et donc quand elle a commencé à me parler de cette collection là, j'ai su que je pourrais faire Empire des Chimères comme il avait été conçu au départ, c'est-à-dire vraiment comme un labyrinthe, comme des poupées russes et que j'avais pas à me restreindre sur l'aspect fantastique ou labyrinthique.
We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Tragic story. Eddie's sister, Mary Louise, needed an operation. To get the money, he would have to become an overnight sensation. Eddie believed the American people had wonderful, love-giving hearts. His well-publicized end, he considered, would send his memorial album to the top of the charts. And it did! To our shock and surprise, in a plane crash or a flashy sports car, he becomes quite well known, and the kindness he's shown has made more than one postmortem star. Well, you did it, Eddie. And though it's hard to applaud suicide, you gave all you could give so your sister could live. All America's choked up inside, man. We'll remember you. Sacrifice you made, we can't believe the price you paid.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'était en 1974, Phantom of the Paradise. Vous aviez 3 ans à l'époque, Antoine Chénas. Je vous dis ça parce que il y a parmi toutes ces références de la pop culture contenues dans votre dernier polar, Empire des Chimères, quelque chose qui nous rappelle cette culture-là, ce genre de film, ce film en particulier, non ?
Oui, oui, mais il y a un aspect populaire qui est totalement assumé dans Empire des Chimères. C'est pour ça que je me suis attaché vraiment à rendre le livre très, très, très accessible. Après, le lecteur pourra décrypter les références culturelles, mais c'est vraiment pas obligatoire pour la lecture. L'histoire peut se lire des deux manières, indifféremment.
Alors, vous tenez des fiches de personnages, vous. Il y a des auteurs qui laissent leurs personnages vivre leur vie, leur échapper, ils essayent de les rattraper, vous non. Vous avez des fiches.
Oui.
J'allais dire quand même bon flic.
Non, là, le dossier était très complet. C'est-à-dire, il y avait des fiches personnages, la structure, il y a les descriptions de l'environnement aussi, parce que c'était très important. Il y a à la fois l'environnement rural, qui est le village. Il y a le côté américain, puisqu'il y a une partie de l'intrigue qui se déroule aux États-Unis. Donc voilà, il fallait vraiment clarifier tout ça pour après ne pas sortir des rails au moment de la rédaction, parce qu'il y a quand même, vous l'avez dit, c'est un livre qui est quand même d'une taille conséquente, avec une dizaine de personnages principaux. Donc il fallait vraiment que tout ça soit très très clair pour que le lecteur ne soit pas perdu.
Et parmi ces personnages, il y a des enfants, des collégiens. Est-ce que vous êtes très à l'aise quand vous parlez des jeunes, ou est-ce que pour vous c'est aussi une forme de gageure que de retrouver le jeune que vous avez été dans les années 80-90?
Écoutez, il y a un petit peu des deux. Je pense qu'il y a il y a un côté, oui, je suis à l'aise d'une certaine manière. J'ai un garçon qui a été collégien il y a pas très très longtemps, il y a pas si longtemps. Maintenant, il est lycéen. Mais c'est plus tout à fait le même monde. Alors donc, je me suis vraiment attaché à saisir un petit peu l'esprit du début des années 80, de la façon dont je m'en souvenais. Mais en même temps, il y a vraiment un mystère dans la jeunesse qui, à mon avis, est insondable de toute façon. Donc on peut essayer de l'appréhender de manière sensible par petites touches, mais je pense qu'on n'en saisira jamais l'essence, parce que c'est quelque chose qui est perdu irrémédiablement.
Et pourtant, la vie de ces jeunes, ou leur projection dans d'autres vies parallèles qui s'imaginent, ou dans ce jeu de rôle, c'est vraiment central dans Empire des Chimères.
Oui. Bah le en même temps, ça démontre un petit peu à quel point l'industrie ludique peut, on va mettre des gros guillemets, peut pervertir la jeunesse. Mais de toute façon, c'est un âge où, et vous l'avez dit fort bien tout à l'heure, c'est un âge où on est particulièrement perméable à cette dualité entre la fiction et la réalité, et où pour peu qu'on se laisse entraîner, on peut être plus réceptif aux effets néfastes d'un nouveau jeu ou d'une nouvelle tendance.
Vous organisez la rencontre entre un monde cynique, le monde industriel, celui qui imagine, commercialise ce jeu de rôle, et puis le monde innocent de celui qui en profite, qui joue avec.
Oui, mais je crois qu'à la réflexion, il y a aucun des deux mondes n'est innocent et aucun des deux mondes n'est totalement cynique. J'ai l'impression que du côté américain, effectivement, on se situe dans le monde des affaires, donc effectivement, il y a un côté à la fois cynique, un petit peu très froid et très très calculateur, mais en même temps, c'est des personnages qui sont il y a 3 personnages principaux qui sont un petit peu à la dérive et qui sont un petit peu à la recherche de leur âme d'enfant. Et du côté des adolescents, il y a un côté pas si innocent que ça.
Est-ce que votre livre, ou vos romans d'une manière générale, Antoine Chénas, disent des choses, veulent dire des choses, transmettre des messages, des sensations, une vision du monde, une vision de ce que vous ressentez, de ce qui vous entoure, ou dans ce monde-là de la fiction, vous êtes déconnecté de tout ce genre d'analyse, de...
Bah écoutez, dans le meilleur des cas, je pense qu'il y a, quelques questionnements qui peuvent surgir dans l'esprit du lecteur, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est quand même de fournir une histoire avec des personnages attachants, que le lecteur puisse passer un bon moment. Maintenant, dans l'idéal, effectivement, ça peut amener le lecteur à se poser quelques questions. Le Sainte-Beuve disait que tout auteur se doit d'être mécontent de son époque. Moi, on peut dire que je suis à la fois mécontent du passé et je suis mécontent du futur.
Le roman policier qui est en très grande forme aujourd'hui en France, on dit qu'un livre sur quatre vendus en France est un polar. Est-ce que ce genre est en train de se renouveler, d'après vous, Antoine Chénas?
Moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression, et en même temps, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il se renouvelle. Mais il y a vraiment une grande vitalité, et une vitalité qui est d'autant plus importante. On peut parler un petit peu commerce, si vous voulez. Mais il y a une crise de l'édition qui perdure depuis un moment. Et j'ai l'impression que là, en particulier en ce moment, les maisons d'édition privilégient un petit peu les auteurs français parce que ça permet aussi d'avoir moins de frais que de publier des étrangers. Et que parallèlement, non seulement ils publient des Français, mais il y a des Français de qualité qui proposent des produits de qualité. Donc je crois qu'il y a une conjonction qui est intéressante en ce moment. Après, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que ça va se prolonger, je sais pas, mais c'est possible qu'on retrouve un petit peu l'époque du néo-polar de Manchette qui est un petit peu disparu dans les esprits mais qui peut éventuellement ressurgir.
Plus que jamais on parle de romans policiers ancrés dans le réel qui parlerait mieux de l'état de la France, de la société, de l'état du monde que la littérature dite classique. Ça vous fait sourire, Antoine Chénas?
Ah oui, parce que ça j'y crois pas une seconde. Un genre, oui, ou une fiction qui est ancrée à la réalité, j'y crois pas une seconde, parce que on est toujours, de toute façon, on est toujours dans la fiction, même quand on fait un documentaire, même quand on fait un film, quand on fait, on est de toute façon toujours dans la fiction. Donc effectivement, il y a des livres effectivement qui peuvent avoir plus d'ancrage avec la réalité qui est rien d'autre qu'un mensonge presque universellement accepté, de moins en moins d'ailleurs avec les fake news et
mais on peut parler des fake news comme une raison d'avoir peur, et c'est une réalité qui angoisse les gens. Est-ce que le polar ne carbure pas justement aux peurs nouvelles qui surgissent dans les sociétés?
Bon, je crois que la littérature a toujours carburé aux peurs nouvelles qui irriguent un petit peu la société. Là, en venant, j'ai pris l'avion, j'ai lu un recueil de Maupassant. Et effectivement, dans ces nouvelles, on pourrait déjà dire qu'il mentionnait déjà les légendes urbaines. C'était un petit peu le précurseur de toutes ces histoires à faire peur, entre guillemets. Et je crois que la littérature, ou même le divertissement d'une manière générale, d'une manière très très large, a toujours surfé sur les peurs des gens et sur ce qui pourrait arriver si les choses tournaient mal.
En écrivant des polars, vous avez l'impression de participer au divertissement ou à la littérature, Antoine Chénas?
Écoutez, j'aurais la prétention de dire que je participe un petit peu aux deux. J'assume parfaitement le fait de participer au divertissement. De toute façon, c'est une industrie, donc il y a forcément des compromis à faire. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas aussi d'idéaliser un petit peu la littérature avec un grand L et d'essayer de faire des produits qui échappent un petit peu au divertissement et qui vont du côté du questionnement.
Vous avez dit comme un produit.
Oui, parce que le livre est un produit. Aujourd'hui, on n'est plus... je le vois quand je fais des festivals ou les gens à qui on a affaire, en majeure partie, c'est plus des lecteurs, c'est des consommateurs. Donc, écoutez, c'est un autre monde, mais on peut pas s'en affranchir de toute façon. Donc, voilà, encore une fois, j'ai l'espoir de parvenir à faire une jonction entre le divertissement et l'aspect littéraire, on va dire un petit peu éthéré.
Alors, quand vous n'écrivez pas des polars, quand vous ne traduisez pas des polars anglo-saxons, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez comme ou qu'est-ce que vous consommez plutôt comme comme livre, comme objet littéraire?
Écoutez, dans l'absolu, je consomme pas grand-chose parce que je suis quelqu'un qui se tient très en retrait de la société de consommation le plus possible. Je suis convaincu qu'on doit laisser un minimum de traces sur Terre, donc j'essaie de laisser un minimum de traces de mon passage, mais bon, ça c'est mes préoccupations personnelles. Je lis beaucoup par la force des choses parce que je lis pas mal d'ouvrages pour différents éditeurs que je propose de façon régulière. Voilà, sinon le reste du temps, dans le meilleur des cas, je produis une vie de famille et une vie amicale qui suffit amplement à meubler mon temps.
Vous lisez quand même des romans ?
Je lis beaucoup, mais malheureusement la plupart du temps pour le travail.
Merci d'être passé ce matin, Antoine Chénas.
Merci à vous.
Empire des Chimères, c'est édité chez Gallimard dans sa série Noire. Vous pouvez réécouter cette émission. Le Réveil culturel est coordonné par Corinne Amard, réalisé ce matin par Christine Robert avec la technique Julien Douminc. À demain, et demain on parlera de l'actualité de la bande dessinée.